Écoutez Au quotidien, 5e édition, avec Yvan Deslauriers et Francine Forget.
On a commencé la discussion.
Ben oui.
On va finir par être copiés un peu, la journée est encore jeune, nous autres. Des fois, on a de la misère à s'arrêter quand la lumière rouge s'allume.
Des fois, c'est l'inverse.
Ah, la passion, ben on l'a toujours, mais je pense qu'elle a s'est vraiment intensifiée avec l'arrivée de Michel Lambert en studio. Ben, parce qu'on est content d'avoir Michel, c'est la première fois, mais aussi parce qu'on parle. On parle de ce qui se passe aux États-Unis. On va faire un retour, je ne sais pas sur quoi.
Et même ailleurs, des États-Unis.
Oui,
là,
ben,
parce qu'il y en a qui...
Les conséquences des États-Unis, on va parler de ça.
Oui, c'est un impact mondial.
Et on va certainement parler, parce que moi, c'est toujours la préoccupation que j'ai quand j'échange avec Michel, c'est vue des médias américains par rapport à vue des médias québécois-canadiens. Là. Donc... Il y a une grosse frontière entre nous deux jusqu'à temps qu'évidemment elle soit abolie puis qu'on intègre les États-Unis. Mais pour le moment, c'est le statu quo.
C'est le statu quo pour l'instant.
C'est pour ça, l'instant, c'est ça.
Oui.
Pour l'instant, on veut dire à 11 heures, là, c'est ça?
Oui. L'actualité évolue extrêmement vite.
Oui, c'est ça. Alors, Michel va être avec nous pour la chronique. Puis ensuite, ben, je ne sais pas, on avait mis la discussion, mais j'ai l'impression que Michel va être avec nous, je devrais dire comme ça, pour une vingtaine de minutes.
Jusqu'à 11h20, oui.
C'est ça. Pour la discussion qui va être une chronique. En tout cas, on ne sera pas capable de se retenir, ça c'est sûr. On t'écoute, Michel.
Que dire? Il y a beaucoup de choses à dire. Disons que
Par quoi commencer?
Amène-nous quelque part.
Commençons, c'est ça. Alors, le son est bon, c'est ça, ça va, oui. Lundi, c'était le lancement de la version 2.0, Trump 2.0. C'est une version revue et surtout augmentée. Alors, c'est les mêmes bases du trans, de mensonges, de propos.
Surtout pas corrigé.
Et surtout pas corrigé, non, surtout pas corrigé, effectivement. Alors, il a commencé par... dans l'heure qui a suivi par le pardon à tous les gens qui étaient condamnés pour l'assaut du 6 janvier. Mm-hmm. Alors, donc, il réécrit l'histoire. C'était, comme vous saviez, si vous n'avez pas remarqué, c'est une journée de l'amour.
Avec plein de patriotes.
Avec plein de patriotes, tout ça, c'est, oui, c'est, et de victimes, enfin, c'est de futures victimes. Alors, donc, c'est l'acte de sédition le plus important de la guerre civile, mais ça, il n'y a pas de problème. Il y a défait la plus importante enquête du département de justice depuis 150 ans. Il y a des criminels qui n'ont aucune restriction pour acheter des armes. Ils peuvent aller acheter des armes pour la prochaine confrontation. Puis le message que ça envoie, c'est on peut violer la loi en soutien à Trump, puis c'est récompensé. La violence est légitime comme forme d'expression politique. Il n'y a pas de prêt à payer pour empêcher le transfert de pouvoir là, constitutionnel.
Mais Michel, est-ce qu'on peut s'attendre à autre chose de quelqu'un qui a été condamné au criminel?
S'attendre à autre chose, c'est-à-dire...
c'est-à-dire qu'ils vont... il faut qu'il normalise lui-même sa situation.
Non, elle est normalisée de facto, c'est le pardon total.
Non, je sais, mais je veux dire quand même, il a été reconnu coupable, Trump. Il n'y a pas de sentence, donc il faut qu'il... Je sais pas, moi, je vois ça comme un geste pour montrer que... on est tous dans le même bateau, là, moi, c'est
mes concitoyens. À la limite, on pourrait trouver une culpabilité du fait qu'ils avaient entraîné là-dedans aussi, il y a peut-être
non,
ça
mais
aussi,
c'est peut-être tout ça, mais c'est en tout même ça. Temps, ça efface ce qu'il a fait. D'une certaine manière, dans sa tête à lui. Là, pas
dans sa tête à lui, non. Les faits restent, mais ça efface. Ouais. Ça fait une armée politique. C'est des extrémistes qui pourront intimider éventuellement. Et ils savent qu'ils seront pas. Qu'ils vont avoir l'immunité. Donc, c'est excellent pour le recrutement aussi. Ça aide le recrutement des futurs.
Mais quelque part, le Parti républicain, c'est pas le parti de la loi et de l'ordre?
Ça, c'est une des très, très, très nombreuses contradictions. Je pense que je suis rendu à 10. Là. Oui, effectivement. C'est une des fissures qui vont... Pour l'instant, il y a beaucoup de républicains qui... Il n'y a aucun républicain qui ose lever la tête, là, parce que, bon... mais effectivement, dans leur ADN, c'est la loi et l'ordre.
Oui.
Donc, et d'ailleurs, un des... Le principal syndicat de police... qui a voté républicain, enfin, ils ont voté républicain, ils sont outrés par cette décision-là. Parce qu'il y a eu 140 agents qui ont été attaqués, un qui a été tué, un autre qui s'est suicidé, plusieurs qui ont été blessés et tout ça. Alors, la police n'est pas contente du tout. Et ils l'ont exprimé de façon très claire. Puis bon, ben, il y a des sites maintenant qui pro-Trump qui appellent à l'exécution de juges, d'officiers de police, de démocrates, qui seraient un peu encombrants. Puis finalement, si vous avez aimé le 6 janvier 21, vous allez adorer le 6 janvier 29, parce que finalement, c'est un encouragement à refaire la même chose.
Oui, c'est ça. Mais tu as dit que tu es pas mal encourageant, 29.
Non, c'est du long terme.
Est-ce qu'il va avoir le droit de se représenter, même si la Constitution ne le permet pas?
C'est impossible. La Constitution ne le permet pas. C'est l'amendement, le 22e amendement.
Mais est-ce qu'il va respecter ça?
Ben, il ne peut pas le respecter.
Il ne peut pas ne pas le respecter.
Il ne peut pas ne pas le respecter, oui, c'est ça. Il peut toujours... La Constitution a déjà été changée, mais ça prend les deux tiers des deux chambres, ça prend les trois quarts des États, c'est
puis il n'est pas capable d'avoir ça, lui.
Il ne peut pas faire ça, à moins de faire un coup d'État. Dans 4 ans, il va être affaibli. Là, il est en lune de miel. Mais d'ici 2 ans, les contradictions vont être ressorties. Mais je pense que les midterms vont être très
deux
sévères.
2 ans? J'ai-tu bien entendu? T'as-tu dit 2 ans?
Oui, 2 ans.
Oui.
Ouh, ça va être long, ça.
Ben, oui. C'est les élections de mi-mandat.
De mi-mandat. Et généralement, c'est défavorable aux partis au pouvoir. Et je pense qu'avec les contradictions qui déjà, depuis 4 jours, s'accumulent déjà, j'ai l'impression qu'ils ne survivront pas. Enfin, les deux chambres qui sont à la... Enfin, la majorité est très mince.
Oui,
alors, les démocrates pourraient reprendre le pouvoir, ce qui en ferait un lame duck, un canard boiteux, parce que, bon, il n'y aurait plus vraiment de pouvoir. Donc, il faut se rassurer en disant qu'il était au maximum de son pouvoir en ce moment.
OK, ça, c'est rassurant, ton opinion. c'est ton opinion à celle de ton analyse, ou si c'est exprimé dans les médias américains?
J'ai pas beaucoup d'opinions. C'est exprimé dans les médias américains.
OK.
Et les médias américains, ça dépend ce qu'on lit. Moi, je lis le New York Times, le Washington Post, mais aussi le New York Post. Et là, on est dans deux univers complètement différents. C'est vraiment le New York Post, c'est une réalité alternative. Je ne suis pas abonné à Fox News Channel, mais j'imagine que c'est pareil. Donc, y a vraiment les médias sont vraiment séparés en deux. Puis je ne vais pas sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont encore beaucoup plus d'importance maintenant que la télévision câblée ou tous les balados là, dont on a entendu parler sont plus importants en termes d'influence.
En tout cas, X beaucoup, là, je veux dire. X a
beaucoup d'influence.
Cette semaine, j'ai suivi, là, puis vraiment, c'est comme le canal officiel de la Maison-Blanche.
Tout à fait.
Je vais dire ça comme ça.
Et la propriété du deuxième vice-président. Donc, c'est...
Le deuxième vice-président.
Oui, il y a deux vice-présidents en ce moment.
Ah,
bon.
Ah, je pensais que c'était le premier.
Ah non, oh, d'accord, je m'excuse.
Okay. Le vice-président tacite.
Oui, oui, implicite et tout ça. C'est intéressant de voir, parlant de mise en scène, la sermentation, où on avait en évidence toute la Silicon Valley.
Oui, hein?
C'était assez remarquable, effectivement.
Y compris les Chinois, quand même. Monsieur TikTok était là.
Monsieur TikTok était là, effectivement. Monsieur TikTok était là.
Il essayait de...
Bon, je pense qu'il a fait un bon lobby parce que TikTok a été sauvé, en tout cas, pour quelques dizaines de jours. Là,
75 jours, oui.
Ils peuvent maintenir ses opérations aux États-Unis. TikTok, ben, on peut en parler très rapidement. Il y avait Bill Maher, c'est un comédien, stand-up comique, qui disait bon, ben, si on ferme TikTok, les jeunes vont devoir en partie retourner sur Facebook. Ce qui fait que même dans l'univers virtuel, des jeunes doivent retourner vivre chez leurs parents.
C'est bon. Mais ça, là, on va en parler, puis je ne veux pas parler juste de ça, parce qu'Yvan, il va dire, bon, si on parle de ça, on n'arrêtera plus, elle n'est pas arrêtable. Parler technologie. Mais ça, là, ils sont en compétition entre eux, là.
Oui, oui, tout à fait.
Hein, ce beau groupe d'Américains, là.
Ils sont en compétition, effectivement. D'ailleurs...
Parce que M. Zuckerberg, est-ce qu'il est là, lui, pour ramasser tout ce qu'il va avoir à ramasser?
Ben, il est là surtout pour ne pas être pénalisé. D'ailleurs, en enlevant ces mécanismes de vérification des faits, il voulait plaire à Trump. Là,
puis oui, mais là. Déjà, il a mis en œuvre sur son Instagram, puis il y a des choses qu'il va mettre en œuvre qui sont des copies conformes des possibilités qu'offre TikTok. Donc, il récupère certaines choses, il se prépare.
Il se prépare à prendre la place,
Il se prépare, c'est quand même impressionnant.
Ouais.
C'est avec un ami de même, t'as pas besoin d'ennemis, M. Musk, je sais pas s'il l'aime beaucoup.
Mais qui est-ce qui a dit, les ennemis, il faut qu'on les garde les plus proches.
Oui, le plus proche possible de soi, effectivement,
tout à fait. M. Musk, il a besoin d'arrêter de faire toutes sortes de niaiseries puis se concentrer peut-être sur un de ses nouveaux amis, parce que...
Ben là, il y a le programme Stargate là, sur l'intelligence artificielle, et déjà Musk l'a dénoncé parce qu'il dit que les partenaires...
C'est parce qu'il n'est pas là?
...sont pas fiables, ben, c'est ça. C'est parce qu'il n'est pas là, tout simplement, effectivement. Puis là, TikTok, ben, les réfugiés, ils appellent ça les réfugiés TikTok, qui vont sur Red Note, ce qui arrange rien parce que c'est chinois. Puis le problème, c'est que les Chinois, même si le propriétaire est de bonne foi, il n'a pas le choix de travailler avec le Parti communiste. C'est vraiment, les entreprises en Chine n'ont pas le choix. Puis en cas de conflit, on essaie de rendre l'ennemi aveugle, là. On attaque les satellites et tout ça, mais les Chinois vont garder beaucoup d'informations, puis vont garder une fenêtre avec les comptes TikTok. Ils peuvent être branchés, tourner tous ces comptes-là en micro et en caméra vers des gens qui sont stratégiques ou qui sont importants.
Mais je ne sais pas si on en a parlé dans la presse américaine, mais ici, il y a quand même des chroniqueurs qui ont soulevé certaines questions.
Ce dont je parle, c'est Nicolas Christophe, qui est chroniqueur dans le New York Times, qui parlait d'un scénario de conflit où TikTok donnerait un gros avantage à la Chine en termes de vision sur le territoire, suivre les mouvements des enfants, des personnes importantes, puis aussi moduler faire des informations en temps de conflit, c'est-à-dire mettre en cause les décisions du gouvernement, les instructions du gouvernement. Enfin, il élaborait un scénario en temps de conflit qui était un peu inquiétant, finalement.
Oui. Mais aussi, c'est que là, on s'en va, en tout cas, à moins qu'on se trompe, là, si on regarde aller ça, c'est quand même un dossier qui est important parce que ça va finir, on peut se tromper, mais ça devrait finir qu'il va avoir une propriété américaine et une propriété chinoise.
Mm-hmm.
Donc, ça veut dire que l'enjeu de la sécurité, il demeure parce que les Chinois, c'est eux qui détiennent le contrôle de la technologie.
Par contre, avec une propriété... américaine, il y aura peut-être moins de... Il y aura un flot d'informations vers la Chine moins important, j'imagine. Puis propriété américaine, bien, ça pourrait être Elon Musk.
Alors, on va faire une petite pause, puis on continue
pause,
après.
On prend une gorgée, puis on continue.
Là, Yvan, on se met en mode discussion, c'est ça?
Oui, oui, on change de chronique.
On change, la chronique est finie, on se met en mode discussion.
Là, on jase.
C'est juste pour que nos auditeurs nous suivent, là, ils ne se retrouveront pas.
Alors, est-ce que... Moi, j'ai des gens dans mon entourage qui sont un peu nerveux avec ce qui se passe aux États-Unis.
Ils font de l'anxiété, hein?
Oui, ils font de l'anxiété. Puis ils n'ont pas de... C'est pas parce qu'ils ont une compagnie ou quoi que ce soit. Ils font juste de l'anxiété. Est-ce que je vais pouvoir retourner aux États-Unis? Est-ce qu'on est un peu devant une grosse incertitude?
Oui, mais c'est l'incertitude comme arme politique, en fait. Trump est de nature imprévisible. Mais aussi, l'imprévisibilité, c'est une théorie politique là, pour déstabiliser. Alors moi, je pense qu'il faut faire une distinction entre le show, le théâtre et l'action réelle. Parce que Trump n'est pas tout puissant. On a l'illusion de la puissance pour l'instant, mais il va très, très vite, frapper des contradictions là, au sein même du Parti républicain. Il y en a déjà qui apparaissent. Et il y a deux ans pour agir. Après ça, il va être beaucoup moins puissant. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas lieu d'être angoissé. C'est sûr qu'il faut être réaliste. Il risque d'avoir un impact sur sur les entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises, de PME qui font affaire aux États-Unis.
Mm-hmm.
Il est possible que, par exemple, ils doivent investir, s'ils restent en affaires aux États-Unis, qu'ils doivent investir aux États-Unis ou encore qu'ils arrêtent leur activité américaine. Alors, il ne faut pas être naïf, il va y avoir des répercussions. Mais je pense qu'il y a une espèce de show de boucan, Trump, et il ne faut, faut pas tomber là-dedans non plus. Là. Il faut être réaliste, il faut être prêt, mais il ne faut pas non plus paniquer, parce que je pense que, enfin, à mon avis, puis, et de l'avis de beaucoup de chroniqueurs, il n'y a pas lieu de le faire. Puis, et il n'y a pas de contre-pouvoir pour l'instant, mais lui, une des indices de sa réussite, c'est la bourse. Si la bourse baisse parce que, à cause de ses décisions, tout ça, il va reculer. On voit les tarifs, ça va être le premier jour, c'est le mot de la langue anglaise qu'il adore. Ben là, c'est rendu au 1er février, puis après ça, ça va être peut-être plus tard.
Il a dit peut-être le 1er février.
Peut-être le 1er février, puis bon, il module comme ça. Alors finalement, il y a vraiment un show, là, puis il ne faut pas être impressionné par ce show-là. Alors donc... C'est ça. Il y a beaucoup de théâtre là-dedans.
Est-ce que, si on parle d'économie, justement, tu as vu ce matin l'article de Francis Veil dans la Presse Plus? On se rend compte que c'est ça, le message qu'il envoie, lui, Trump, c'est complètement un peu loufoque, là.
Mm-hmm.
Mais que derrière ça, il y a quand même une démarche que je trouve assez sérieuse, là.
Tout à fait.
C'est qu'ils veulent rebrasser, il y a un constat depuis plusieurs années.
Ouais.
Les tout-puissants américains ont payé pour beaucoup de choses, mm-hmm. et là, maintenant... c'est assez, là. On va rebrasser les choses.
L'auteur
là.
Du rapport cité par Francis Veil, il travaille pour le Manhattan Institute, qui est un organisme de droite là, à New York. Et c'est un organisme sérieux, à droite évidemment, mais qui est sérieux. En fait, c'est que, puis dans la presse américaine, on voit ça aussi, c'est que Trump, c'est comment ce qu'il s'appelle. Enfin, il y avait un autre chroniqueur qui disait « Trump, parfois, met le doigt sur de vrais problèmes. En fait, ses solutions sont loufoques, mais il y a quand même des problèmes. Comme, par exemple, la désindustrialisation des États-Unis était, parce qu'il y avait la mondialisation heureuse, là, tout ça, a eu des répercussions sérieuses, puis des répercussions qui mettent même en danger leur sécurité, parce que être industrialisé, ça veut dire être capable de produire des laveuses à vaisselle, mais aussi des tanks et des bateaux et tout ça. Donc, si on n'a pas d'industrie, on n'est pas capable de répondre. Par exemple, si les Chinois produisent à toute vitesse des porte-avions, tout ça. Donc, pas d'acier, pas de sécurité. Là. Biden l'a abordé de la bonne façon avec le Inflation Act, là, enfin, mm-hmm. sa mesure d'investissement. C'était la chose à faire, mais ça partait un peu du même diagnostic. Finalement, Trump, procède autrement. Il dit on rapatrie, puis si vous venez pas aux États-Unis produire, ben on met des tarifs. Mais c'est sûr que il y a des solutions loufoques, mais qui sont parfois des problèmes réels. Et le Canada là-dedans est un petit joueur. Là, c'est vraiment contre la Chine. C'est vraiment la Chine qui est en cause là-dedans. Alors très rapidement, s'il veut réussir à se battre contre la Chine, ben il y a avantage à avoir des alliés comme le Canada. En fait.
Oui.
C'est des ressources naturelles. Nos ressources et notre énergie et tout ça.
En fait, ce que tu nous dis, c'est que à force de tirer dans toutes les directions, ça arrive une fois, quelques fois qu'il est sensible.
C'est-à-dire que, parfois, les problèmes à la base, comme l'immigration, le système d'immigration qui a été déréglé, parce que l'immigration, c'est utile, c'est important, mais ça se faisait tout croche. Puis mais c'était un problème réel, à tel point que les démocrates avaient un programme pour corriger tout ça, mais qui a été torpillé par les républicains parce qu'ils voulaient garder cette carte-là aux élections.
Oui, oui.
Alors, donc, oui, certains des problèmes sont très réels. C'est juste que... c'est ça. Il est excessif. Puis derrière lui, il y a des penseurs, effectivement, comme cette personne-là qui est citée par Francis Veil.
Mm-hmm. Sûrement.
Ouais.
Mais souvent, c'est ça. Comme il fait dans la caricature, on a de la misère à comprendre parce que, justement, s'il y a un problème identifié, lui, sa solution, elle est toujours simple.
Il est très...
elle est facile à implanter.
Je vais régler ça.
Oui, c'est ça. Alors...
Je vais régler la guerre en Ukraine le premier 24 heures. Je regarde, on est déjà rendu, ça fait 5 jours.
Dans quel fuseau horaire,
d'une part. D'autre part, il est pas très content en droit de Vladimir Poutine, qui n'a pas voulu s'entendre avec son négociateur, Kellogg.
Oui, c'est ça.
Alors, il n'est pas content. Là.
Bon, ben c'est intéressant quand même.
Oui,
on va suivre ça. On va prendre ça. Puis j'espère, Michel, que tu auras encore le temps, de temps à autre, peut-être pas de venir nous visiter jusqu'ici, mais au moins de nous parler, parce que ça reste un sujet qui nous préoccupe, comme
oui,
bien
c'est
des
un,
gens.
C'est un sujet qui
puis,
nous préoccupe, oui.
C'est posé, je trouve ça intéressant, c'est quand même posé, justement, de... Mm. Parfois, des discussions comme ça nous, peuvent nous effrayer, mais aussi nous ramener
remettre
à la réalité,
remettre en perspective. Remettre puis, en perspective, je pense ouais. qu'il ne faut pas... Le show de Boucan, le théâtre, est un outil politique pour déstabiliser. Alors, il ne faut pas y céder.
Il faut se rappeler de
ouais,
ça.
Tout à fait.
Alors, merci,
grand
Michel.
Merci.
Ben, oui, au plaisir.
Oui.